Info matin, Nicolas Legrand.
Quels ont été les liens entre certains élus indépendantistes du Congrès et l'Azerbaïdjan ? Les loyalistes et le Rassemblement veulent faire toute la lumière sur le mémorandum et plusieurs déplacements à Bakou. Ils demandent la création d'une commission d'enquête du Congrès. Une cinquième modification du budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été arrêtée hier par le gouvernement pour prendre en compte la nouvelle aide de l'État. Une somme de 13 milliards de francs. L'actualité politique nationale, Emmanuel Macron n'a toujours pas trouvé la solution à son casse-tête qui nommait à Matignon. David Lisnard et Michel Barnier sont les nouveaux noms qui circulent. Le sport est malheureusement pas de podium paralympique cette nuit pour Pierre Ferbanque. Le Calédonien a terminé 5e de la finale du 100 mètres fauteuil. Dernière chance de podium pour lui, ce sera ce soir sur le 800 mètres. En revanche, pour la délégation tricolore, c'était une journée tout simplement exceptionnelle avec énormément de médailles, dont 4 en or. Le tour des résultats dans la page sport. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil s'impose largement en cours de journée. L'alizé de sud-est se renforce partout, entre 20 et 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 40 nœuds. Quant aux températures maximales, elles baissent et deviennent fraîches pour la saison. Elles sont comprises entre 21 degrés à l'île des Pins et 27 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique.
Oui, faire toute la lumière sur les relations qui unissent l'Azerbaïdjan et certains élus indépendantistes du Congrès. C'est le but de la commission d'enquête dont les groupes Les Loyalistes et Rassemblement demandent la création, Léana Colombo.
Les Loyalistes et le Rassemblement ont déposé une proposition de création de cette commission d'enquête qui serait chargée d'examiner les relations, accords et activités entre les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la République d'Azerbaïdjan. Un pays autoritaire dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois et qui est soupçonné de mener des actions de déstabilisation de la France et notamment en Nouvelle-Calédonie. Un pays qui a créé des liens particuliers avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie au travers notamment d'un mémorandum d'entente signé en avril dernier par Omer Anesline au nom du président du Congrès de l'époque, Roquois Mitan. La commission d'enquête devra donc faire la lumière sur ces liens entre certains indépendantistes et l'Azerbaïdjan, explique Virginie Rufnak, chef du gouvernement Rassemblement.
Il y a nécessité de faire toute la lumière sur les moyens qui ont été consentis par le Congrès pour mettre en œuvre ces fameux accords avec l'Azerbaïdjan, sans qu'aucun élu du Congrès, à part le président qui a pris cette initiative, n'ait donné son accord pour que un tel mémorandum soit signé entre le Congrès et l'Azerbaïdjan. Quand on engage un parti politique, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, l'ancien président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Roquois Mitan, a engagé l'institution elle-même, sans avoir à aucun moment l'aval des élus du Congrès et sans même que les élus du Congrès n'aient été destinataires de cet accord dont nous ne savons absolument pas ce qu'il contient.
Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement. Il y a le mémorandum, mais il y a aussi le déplacement à Bakou d'une délégation d'élus calédoniens. Marilyn Sakilia, Isabelle Caloy-Béarouné, Maria Isabella Saliga-Lutovica et Michael Forest, accompagnés de collaborateurs politiques. Ils ont participé au congrès des colonies françaises organisé par l'Azerbaïdjan. Là aussi, la commission d'enquête permettra de déterminer comment cela a été organisé, souligne François Suvé, chef du groupe Les Loyalistes.
Il faut absolument faire toute la lumière avec cette commission d'enquête. Le contenu du mémorandum qui a été signé en avril, qui engage le Congrès, puisque personne, aucun élu n'a pu avoir accès à ce document. Le contenu, on ne le connaît pas. Même si le président Roquois Mitan s'était engagé à nous le fournir, on ne l'a jamais eu. Et puis au mois de juillet, le déplacement à Bakou pour le Congrès des colonies françaises, le déplacement d'élus indépendantistes, et on ne sait pas comment ça a été financé. Aujourd'hui, les Calédoniens méritent qu'on fasse toute la transparence sur cette affaire, et puis surtout sur l'utilisation de l'argent public. Et ça, cette commission d'enquête va permettre d'accéder à l'ensemble des informations pour faire toute la lumière.
Pour créer cette commission d'enquête, il faut une majorité d'élus du Congrès. Les Loyalistes et le Rassemblement comptent sur le soutien des élus Calédonie Ensemble et Éveil Océanien, qui avaient eu l'occasion de protester eux aussi sur la signature d'un mémorandum entre le Congrès et l'Azerbaïdjan.
Et concernant l'actualité du Congrès, la cérémonie de passation de pouvoir avait lieu hier midi, boulevard Vauban. Lors d'une coutume, Roquois Mitan a officiellement cédé son fauteuil de président à Velma Falaeo, élu jeudi dernier à sa succession. La passation s'est déroulée en présence des membres du bureau du Congrès, des chefs de groupe, mais aussi des agents et de collaborateurs des élus. Dans sa prise de parole, Roquois Mitan a rappelé ses mandats au Congrès, mais aussi ses défaites. Mais cela, a-t-il dit, fait partie de la vie politique.
Je ne dis pas que ça ne nous fait pas mal, hein. C'est une épreuve difficile à vivre quand on tombe de ces postes comme ça. Mais comme je suis habitué déjà à recevoir des coups, parce que comme je disais tout à l'heure, l'homme politique ou la femme politique, elle doit se forger une carapace pour pouvoir affronter et pouvoir résister aux coups que l'on reçoit. Parce que la politique, c'est une belle chose. La politique, on travaille pour le bien-être de la population. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. C'est pas pour que les populations meurent de faim ou se révoltent, etc. Non, la politique, c'est d'abord pour ça, de gérer.
Et lors de sa prise de parole, l'ex-président a évoqué trois défis à relever pour Velma Falaeo. Celui de la paix, celui de la liberté et celui de la solidarité. Quant à Velma Falaeo, la présidente du Congrès, elle appelle les élus à se rassembler pour redresser la Nouvelle-Calédonie après ce renouvellement du bureau de l'institution.
C'était une cérémonie importante dans le contexte dans lequel nous sommes. Importante parce que maintenant, il faut qu'on regarde la suite. Et la suite, c'est la volonté des uns et des autres à travailler et redresser le pays. J'aspire à faire en sorte que les choses avancent et que l'institution qu'est le Congrès puisse renouer les dialogues, trouver le consensus nécessaire pour tous les défis qui nous attendent.
Et cette cérémonie s'est clôturée par un échange en tête-à-tête entre l'ex-président Roch Ouamitan et la nouvelle présidente Velma Falaeo dans le bureau de la présidence.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à la création d'une commission d'enquête du Congrès pour faire la lumière sur les liens entre certains élus indépendantistes et l'Azerbaïdjan? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Je vous donne maintenant la réponse à notre question d'hier. 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent approuver la décision de la province sud de fermer les services provinciaux pendant 5 jours à l'île des Pins. Ce, après l'agression dont ont été victimes samedi deux élus, Virginie Ruffnac et Laura Vendégout. Ils ne sont donc que 3% à dire qu'ils n'approuvent pas cette décision. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En effet, les services provinciaux sont donc fermés à partir d'aujourd'hui et pendant 5 jours. Une décision de la province sud qui interroge la grande chefferie de l'île des Pins. Dans un communiqué publié hier, elle condamne bien sûr l'agression des deux élus ainsi que les exactions commises ces dernières semaines sur l'île. Mais les autorités coutumières et l'ensemble des parties prenantes travaillent sans relâche pour maintenir un climat calme et apaisé. Ce qu'écrit la grande chefferie qui regrette de ne pas avoir été avertie de la visite des deux élus et qui juge disproportionnée la décision de fermer temporairement les services provinciaux. Je rappelle que Calédonie Ensemble avait aussi trouvé exagérée la décision de fermer ses services pendant 5 jours. Il est 6h passées de 39 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Après la pause, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec une nuit relativement agitée sur Nouméa.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Monter dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Grand marché de Mamie à Farino ce dimanche 8, de 8h à 13h avec une dégustation de verre de Bancoul, cru et cuit, façon Mamie Fogliani à 11h et animation musicale. Toujours nos produits habituels, des produits et légumes de saison, charcuterie, vanille, miel, ainsi que des plantes et de l'artisanat local. Pas de navette, parking, près du marché. Alors venez passer un bon moment et de découverte du verre de Bancoul en venant au marché de Mamie à Farino ce dimanche 8.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Avec l'actualité judiciaire, au cours de sa conférence de presse hier, le bureau politique du FNNKS a annoncé qu'une plainte avait été déposée auprès de la gendarmerie pour le viol présumé d'une militante à Nouméa par des forces de l'ordre. Le procureur de la République a confirmé hier soir qu'une enquête est en cours à la suite des déclarations d'une jeune femme de 22 ans qui affirme avoir été agressée alors qu'elle se rendait à pied à son domicile. Très alcoolisée au moment des faits, elle affirme avoir été frappée et violée par 5 individus, dont 4 portaient une cagoule noire et des gilets pare-balles, mais sans aucune inscription. Plusieurs expertises, notamment médico-légales et toxicologiques, ont été ordonnées, ainsi qu'un examen psychologique de la plaignante. Mais à ce stade de l'enquête, souligne le procureur de la République, les éléments de la procédure ne peuvent autoriser quiconque à insinuer, voire à affirmer, que des agents appartenant aux forces de sécurité intérieure sont impliqués dans les faits supposés. Fin de citation. En bref, je le disais donc avant la publicité, c'est une nuit agitée qui vient de se dérouler à Nouméa. Les pompiers, mais aussi les forces de l'ordre, sont intervenus dans plusieurs quartiers. Des feux de détritus et de poubelles ont été allumés sur les routes. Les pompiers sont notamment intervenus sous protection des forces de l'ordre à Montravel, où un important dispositif a été déployé. Les policiers ont d'ailleurs été contraints de faire usage de grenades de désencerclement. Et d'après nos informations, un agent a été blessé au visage à la suite d'un jet de pierre. À Rivière-Salée, il y a également eu des affrontements alors que les forces de l'ordre intervenaient après la mise en place de barrages. Les pompiers qui ont également fait face à des feux sur Caméré et Logicop la nuit dernière. Et puis après une journée compliquée pour les forces de l'ordre, mardi au Mont-d'Or, hier a été plutôt calme du côté de Saint-Louis et de la Conception. La Conception qui subit régulièrement des exactions depuis le début des émeutes, Léana Colombo.
Et oui, difficile de reprendre le cours de sa vie quand les magasins alentours ont été pillés, voire même brûlés. Aujourd'hui, l'axe principal de la Conception est déblayé, mais ça n'a pas toujours été le cas. En conséquence, les habitants ont déserté la zone, faute de sécurité suffisante. Yann est kiné au centre de soins Sud Santé. Ce centre médical existe depuis plus de 20 ans et accueille plusieurs corps médicaux en son sein. Si le médecin généraliste a vu son cabinet entièrement détruit, le cabinet de Yann n'a subi que peu de dégâts, lui permettant de reprendre rapidement son activité. Mais le constat est bien là, la population n'est plus au rendez-vous. On écoute Yann.
La zone est sinistrée. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui étaient très surpris qu'on soit ouvert, parce que pour eux, la rue qui dessert la pharmacie et le centre médical, c'est zone de guerre, quoi. Ça a été zone de guerre véritablement pendant des semaines, avec des opérations de gendarmerie mobile à nos portes, des tirs de bibiche d'un côté, des ripostes au gaz lacrymogène de l'autre, des grenades de désencerclement. Moi, j'ai quand même des impacts de balles dans mes baies vitrées. C'est pas forcément super encourageant pour que les gens aient envie de fréquenter l'établissement, quoi.
Cette baisse de fréquentation a des conséquences directes sur le travail de certains salariés du centre médical qui sont désormais au chômage partiel. Une situation compliquée pour les professionnels mais aussi les habitants. Michaela vit à la Conception depuis de nombreuses années et pour elle, il y a un avant et un après le 13 mai.
Ma vie a beaucoup changé. J'ai toujours la peur au ventre et quand je viens chez le kiné, je me demande est-ce qu'il faut que j'y aille ou quoi, parce que je pleure à la maison parce que je me dis que c'est pas possible que la vie elle est arrivée comme ça, quoi. On se demande les accès s'ils vont être libres ou quoi. Alors moi ça me stresse premièrement parce que tout a changé dans ma vie, aussi bien mentalement que physiquement. Je vois les choses différemment. Je garde espoir et je regarde toujours sur Facebook ce qui se passe et tout. Mais pour moi la vie elle s'est arrêtée là, mais comme Yann y dit, la vie elle continue, Michaela. Bon, je dis ben c'est d'accord.
Et du côté de Saint-Louis, le verrou de la gendarmerie est toujours en place. Seuls les habitants de la tribu de Saint-Louis peuvent circuler à pied.
Les élus Génération NC des communes de l'agglomération veulent que l'interdiction de rassemblements, de manifestations et de cortèges durant le mois de septembre soit étendue aux communes du Mont-d'Or, de Païta et de Dimbéa. C'est Cynthia Jean, élue municipale de Dimbéa, qui écrit en ce sens au haut-commissaire. Celui-ci a pris un arrêté qui interdit les rassemblements dans la ville de Nouméa pour tout le mois de septembre. Mais les élus Génération NC estiment que les communes de l'agglomération connaissent une situation au moins aussi instable qu'à Nouméa. Ils demandent donc au haut-commissaire l'extension de cet arrêté aux communes de l'agglo pour y interdire également toute manifestation et rassemblement à caractère revendicatif sur la voie publique.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h44.
Une cinquième modification du budget propre de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr une conséquence des émeutes. Le gouvernement a arrêté hier, lors de sa séance hebdomadaire, ce projet de décision modificative numéro 5, Léana.
Cette décision modificative d'urgence correspond à l'octroi d'une aide complémentaire de l'État d'un montant de 13 milliards CFP sous la forme d'une subvention de près de 3 milliards et d'une avance remboursable de quelques 10 milliards. Ces aides visent principalement le sauvetage du RUAM et du système électrique calédonien pour les mois de septembre à octobre. Elles permettront également d'assurer la continuité du versement du chômage spécifique et du chômage de droit commun. 5 milliards de francs seront consacrés à la sauvegarde du RUAM, 573 millions de francs au sauvetage des NERCAL. 7,3 milliards de francs viendront abonder le chômage spécifique exaction et 202 millions de francs serviront à la continuité du versement du chômage de droit commun.
Et autre décision liée à la violence insurrectionnelle, le gouvernement a attribué 41,5 millions de francs de subventions pour renforcer la sécurisation de plusieurs lycées. celui du Mont d'Or, le lycée d'Ikukewe, le lycée Jules Garnier et l'ex-école de Vambès qui accueille désormais le lycée Petro Atiti. Compte tenu du contexte actuel, ces établissements bénéficieront de gardiennage et de surveillance en septembre et en octobre. Cette opération de sécurisation sera financée par la réorientation d'une partie de la subvention versée aux communes pour le financement du transport scolaire, puisqu'il n'est plus assuré depuis le 13 mai 2024. Le gouvernement, qui a aussi institué des mesures exceptionnelles de soutien aux investissements en défiscalisation locale à la suite des émeutes et des blocages, Léana.
Effectivement, de nombreuses entreprises ont été contraintes de cesser temporairement leurs activités. En conséquence, des mesures de tolérance sont mises en place pour les entreprises endommagées ou détruites qui bénéficient de crédits d'impôt. Le gouvernement s'engage à traiter dans les meilleurs délais les dossiers de demande d'agrément des opérations d'investissement en remplacement des biens immobiliers détruits lors des récents événements. De plus, afin d'aider à la reconstruction des entreprises victimes de dégradations liées aux émeutes, les indemnités d'assurance seront considérées comme un apport en fonds propres non déductibles de la base de l'aide fiscale. Et enfin, au regard de la situation de force majeure à laquelle doivent faire face les entreprises en Nouvelle-Calédonie, la direction des services fiscaux s'engage à ne pas reprendre les crédits d'impôt accordés aux entreprises victimes des émeutes.
Et dans un autre domaine, le gouvernement a examiné un projet de loi du pays et une délibération du Congrès relatif à la représentativité patronale. L'objectif est notamment de renforcer la légitimité des organisations syndicales d'employeurs. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, la crise économique générée par les émeutes et ses conséquences sur le marché immobilier. Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Jean-François Bodin recevra notamment Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération des agences immobilières, et Maître Élise Mougel, la présidente de la Chambre territoriale des notaires en Nouvelle-Calédonie. Et puis, comment préparer sa fin de vie? Comment est organisé le réseau de soins palliatifs en Nouvelle-Calédonie? Le forum des soins palliatifs et des associations de santé aura lieu aujourd'hui sur le site de l'ACH à Nouville. Un moment de réflexion, d'échange, mais aussi de cohésion entre les associations concernées. On en parlera ce matin à 7h30. Notre invité sera en effet David Bilbao, le chargé de projet. Rendez-vous donc tout à l'heure sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. En attendant, il est 6h passé de 48 minutes. Merci de nous écouter dans un instant. L'actualité en métropole et toujours pas de nomination à Matignon.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Depuis 50 ans, la BNC participe activement au développement économique de notre territoire. Tous les jours, nous vous accompagnons dans votre vie quotidienne. Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble vos projets d'avenir. Depuis 50 ans, nous sommes la Banque de Nouvelle-Calédonie. Et votre histoire, c'est notre histoire.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et l'attente se prolonge pour Matignon. La piste Xavier Bertrand tient toujours la corde, mais une autre vient s'ajouter à celle du président des Hauts-de-France. Il s'agit du nom du maire de Cannes, David Lisnard. Il est aussi président de l'AMF, Arthur Delaborde pour Europe 1.
L'Élysée ne donne absolument aucune précision sur le calendrier. La valse des noms, elle, continue. Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve font toujours partie des plus cités. Le président LR des Hauts-de-France aurait les faveurs d'Emmanuel Macron, car contrairement à l'ancien Premier ministre socialiste, il aurait pris l'engagement de ne pas toucher à la réforme des retraites. Néanmoins, ces deux hypothèses se heurtent à la réalité du rapport de force à l'Assemblée, puisque ni Xavier Bertrand ni Bernard Cazeneuve ne semblent en mesure de pouvoir éviter une censure rapide. D'autres pistes sont donc à l'étude, en particulier celle de David Lisnard. Je ne pense pas que l'hypothèse se présente, tempère toutefois ce soir le maire de Cannes dans les colonnes de Ouest-France. Enfin, un autre profil de droite est beaucoup cité ces dernières heures, celui de l'ancien ministre Michel Barnier.
Et pendant ce temps-là, 81 députés ont signifié la demande de destitution du président de la République. 6 écologistes, 3 députés réunionnais proches de LFI se sont joints à 72 insoumis à l'Assemblée nationale pour demander officiellement cette destitution du fait du refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet à Matignon, une procédure qui a évidemment très peu de chances d'aboutir. L'actualité en métropole marquée également par un procès à venir. L'imam radical de la mosquée des Bleus à Marseille, Smaïn Benjilali, sera jugé le 3 octobre prochain pour apologie du terrorisme. terrorisme. C'est le parquet qui lui a notifié après une journée de garde à vue. Mais le préfet de police des Bouches-du-Rhône réclame le renvoi de cet imam sous 5 jours, William Molinier.
Oui, c'est la condition pour que la mosquée reste ouverte. Ou bien Smaïn Bedjilali quitte le lieu de culte définitivement. Ou bien la mosquée fermera, c'est le préfet de police, Pierre-Édouard Colliex, qui a écrit en ce sens aujourd'hui à l'association qui gère la mosquée. J'imagine que, comme vos fidèles, vous ne partagez en rien ces propos contraires aux règles de la République, écrit le haut fonctionnaire. L'imam nie toute incitation à la violence ou apologie du terrorisme. Pourtant, les services de renseignement sont formels. Il voit dans ce représentant religieux un dangereux salafiste, fondamentaliste et antisémite. Il faut dire qu'il a multiplié les prêches radicaux. Il considère par exemple que le délaissement de la prière est un péché plus grave que le crime. Il estime aussi que la laïcité est une ingérence politique dans la sphère religieuse. Selon les autorités, cet imam de 41 ans légitime le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence.
William Molinier pour Europe 1, le préfet qui souhaite un renvoi définitif et non temporaire, comme le laisse entendre l'avocat du prédicateur. À Marseille, où des orages violents se sont abattus, le Vieux-Port complètement inondé depuis hier soir pour nous. Entre 50 et 70 mm de pluie sont tombés en une demi-heure, ce qui a inondé plusieurs lieux du centre-ville, pendant que des plaques d'égouts débordaient sous l'impact des pluies diluviennes. Et enfin, cette information qui vient de nous parvenir à l'étranger, une nouvelle fusillade dans un lycée américain. 4 morts dans un établissement situé dans une petite ville de Géorgie. Un suspect a été interpellé. Le ministre américain de la Justice évoque une terrible tragédie. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Évidemment, direction Paris pour les Jeux Paralympiques. Pas de podium malheureusement pour Pierre Ferbank, mais pour la délégation tricolore, ça a été une belle journée.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information.
Excellent début de journée, la suite de votre journal avec le sport. On retrouve Nicolas Legrand.
Et quelle journée de compétition à Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Alors, énormément de médailles grâce au cyclisme sur route, on va y revenir, mais avant cela, on suivait tout particulièrement Pierre Ferbank. Malheureusement, je le disais, le Calédonien n'a pas gagné de médaille cette nuit. Il a terminé 5e de la finale du 100 mètres fauteuil T53. Il a réalisé un beau temps de 15 secondes 28, pas suffisant face à la concurrence féroce. Pierre Ferbank qui sera aligné la nuit prochaine sur le 800 mètres, ce sera sa dernière chance de médaille dans cette Olympiade parisienne. En tout cas, pour la délégation française, ça a été une journée exceptionnelle. Alors que les Jeux paralympiques de Paris ne prendront fin que dimanche, la France compte déjà plus de médailles d'or qu'à Tokyo il y a 3 ans. 11 titres décrochés en 2021, déjà 15 cette année à Paris. Et ce n'est pas fini, en tout cas on l'espère. La France est 5e au tableau des médailles avec 50 récompenses. Et c'est encore une très belle moisson cette nuit pour nous. C'était même tout simplement historique en ce qui concerne le cyclisme sur route, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est une véritable razzia. Le cyclisme français a collectionné pas moins de 11 médailles, dont 4 en or. La Marseillaise a retenti en Seine-Saint-Denis. Et il y a même d'incroyables doublés. Mathieu Borédon est monté sur le podium accompagné de son compatriote Johan Kell lors du contre-la-montre. Doublé également pour Kevin Lequin, fait Gatien Lerousseau dans une autre catégorie. L'or pour Thomas Perroton d'Arte qui dans la vie est gardien de la paix. Il travaillait la nuit pour la police et il s'entraînait le jour. Chapeau. Enfin, il a ouvert le bal ce matin. Alexandre Léauté, sacré sur la piste à Saint-Quentin en Yvelines il y a quelques jours, s'est offert la plus belle médaille sur la route. On l'écoute au micro de France Télévisions.
Je voulais faire mieux qu'à Tokyo, je pense que c'est chose faite. La piste était plus secondaire, j'avais vraiment préparé le chrono parce que c'est là où j'avais le plus de lacunes. J'ai vraiment mangé beaucoup d'heures sur le vélo et je suis très content que ça paye aujourd'hui. Depuis ma grosse chute il y a maintenant un an et demi où je m'étais cassé les côtes, ouvert le ventre, j'ai beaucoup plus de mal à prendre des risques dans les virages, surtout que le premier était humide. J'étais un peu sur les freins, il y avait de quoi s'amuser après sur le reste du parcours, donc ça l'a fait, je suis très heureux.
Et en tennis de table, après le bronze glané en double, pongiste qui joue en fauteuil, Fabien Lamiro a glané une nouvelle médaille de bronze en individuel cette fois. Après Hugo Le Nageur, double médaillé lors des Jeux, son frère Lucas Didier a assuré une médaille de bronze donc en tennis de table. Et puis en tennis fauteuil actuellement, Stéphane Houdet qui joue donc à Roland Garros. Stéphane Houdet qui a été donc battu en quart de finale en simple, joue actuellement en double avec Cataneo.
Et Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Je rappelle donc que la France est toujours cinquième du classement des médailles, dominée par la Chine. Les Bleus qui en ont remporté 50, dont 15 en or.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, dans le reste de l'actualité sportive, sous la pluie, le maillot vert australien Caden Groves a remporté la 17e étape de la Vuelta. C'est sa troisième victoire cette année sur le Tour d'Espagne au terme d'un final palpitant et pluvieux. Le sprinter peut remercier ses coéquipiers qui ont travaillé très dur pour reprendre les échappées à seulement 2,5 km de l'arrivée. Son compatriote Ben O'Connor reste leader pour 5 secondes d'avance sur Primoz Roglic. En tennis, on joue la fin des quarts de finale de l'US Open. L'Australien Alex de Minaur est opposé en ce moment au Britannique Jack Draper. Ça se passe mal pour l'Australien qui a concédé les deux premiers sets. Un peu plus tard dans la matinée, Jannik Sinner et Daniil Medvedev croiseront le fer pour une place dans le dernier carré. Chez les femmes, la Tchèque Karolina Muchova a facilement dominé la Brésilienne Beatrice Adan Maia, 6-1, 6-4. Dans la matinée, il y aura une belle confrontation également entre la Polonaise Iga Świątek, numéro 1 mondial, et l'Américaine Jessica Pegula, 6e au classement mondial. Et puis le sport côté calédonien, le travail de la Fédération calédonienne de football porte ses fruits et l'instance du ballon rond calédonien souhaite poursuivre son projet Elite Excellence. Après les qualifications pour les Coupes du Monde de leur catégorie d'âge des sélections des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, la Fédération a souhaité faire un point d'étape sur le développement du haut niveau. Dominique Wachali, le directeur technique fédéral.
L'un des points clés, ça a été la qualification en 2017 de cette première génération pour la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se présenter tous les ans? Parce qu'aujourd'hui, les opportunités, elles sont énormes pour toutes les générations, notamment un gamin de 14 ans, il peut rêver d'être en Coupe du Monde. Je pense que pour franchir encore des paliers, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le développement. Détecter plus tôt, c'est à l'âge de 10-11 ans, et orienter, sécuriser sur nos académies qui nous permet d'avoir derrière des joueurs de sélection prêts en s'entraînant toute l'année avec les meilleurs. Aujourd'hui, on est sur ça. On a encore beaucoup de travail, notamment sur cette nouvelle réflexion de mettre le pôle élite. Tous les ans, nos U17 vont participer à des qualifs Coupe du Monde, que ce soit au niveau des filles et au niveau des garçons. Donc, on a tout intérêt à bien travailler au niveau de nos programmes de détection, à bien mieux structurer nos académies pour avoir encore une chance dans les années à venir d'avoir un peu plus la possibilité de donner encore plus de chances à nos sélections de se qualifier tous les ans et pourquoi pas d'essayer dans cette phase de groupe de gagner au moins un match.
Et notez que dès lundi, c'est le tournoi OFC des féminines des moins de 16 ans qui débutera au Fidji. Et au mois d'octobre, c'est la campagne qualificative de la sélection A qui débutera pour tenter d'aller jouer le mondial. Ce sera en 2026.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui, nous sommes en vigilance jaune avec un vent violent tout d'abord de Puma Poya sur les communes de Canala et Thio pour un vent soufflant par moment jusqu'à 25 voire 30 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds aux environs de 75 km/h cet après-midi. Il y a une deuxième vigilance, ça concerne cette fois une forte houle de Nouméa à l'île des Pins pour une houle de sud-sud-ouest qui atteindra les 3 mètres. Ce matin, retour d'un temps sec, le soleil dominera sur le nord alors que les nuages bas remonteront sur le sud de la Grande Terre et les loyautés qui viendront contrarier l'ensoleillement. L'Alizée, lui, est orientée sud-est pour ce matin. Il se maintient autour des 20 nœuds sur le sud et les loyautés localement 20 à 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 30-35 nœuds sur le nord-ouest. Sur la côte Est, il sera plus faible entre 15 et 20 nœuds. Cet après-midi, le soleil s'imposera largement sur le territoire avec tout de même quelques passages nuageux qui persisteront sur la pointe sud, le sud des loyautés et d'autres qui se décaleront de la chaîne vers le nord-est et la pointe nord en fin de journée. L'Alizée, toujours au sud-est, il se renforce autour des 20 à 25 nœuds et des rafales prévues donc jusqu'à 30-35 nœuds nœuds localement sur le nord-ouest et sur les régions de Thiot et Canala, entre 25 et 30 nœuds et des rafales prévues donc comme prévu jusqu'à 40 nœuds. Les températures baissent encore, elles deviennent fraîches pour la saison. Elles sont comprises entre 21 degrés sur l'île des Pins et jusqu'à 27 degrés, ce sera sur la côte ouest.
Merci Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.